Imaginons un instant le pire scénario possible. On soumet un travail de recherche fondamental, le point d'orgue de plusieurs mois d'efforts, avec une bibliographie qu'on pense impeccable.
Ouais, le truc parfait, quoi.
Voilà. Sauf qu'en y regardant de plus près, ben plus de la moitié des citations sur lesquelles repose toute l'argumentation n'ont absolument jamais existé.
Ah oui, c'est le cauchemar absolu.
C'est fou, hein? Et pourtant, c'est le chiffre vertigineux qui a été révélé par une étude de Wolters de Wilder en 2023. En gros, quand on demande à un modèle comme GPT-3.5 de générer une revue de littérature, 55% de ses références sont de pures inventions.
C'est énorme! Plus d'une sur deux!
Et même avec des modèles plus récents, on frôle encore les 20%. Donc on a l'impression de bâtir une forteresse, mais avec des briques holographiques, en fait.
L'image est frappante et franchement, elle illustre parfaitement ce brouillard informationnel complètement inédit dans lequel la recherche navigue aujourd'hui. On se retrouve face à une technologie qui est capable de produire une illusion de savoir d'une netteté aveuglante.
Mais qui est complètement vide derrière, c'est ça.
Exactement. Structurellement, ça correspond à aucune réalité scientifique tangible.
Eh bien, c'est exactement le cœur de notre plongée d'aujourd'hui. On va explorer comment l'IA générative bouleverse l'écosystème de la recherche en s'appuyant sur les travaux d'Abdou Boukesso, et plus particulièrement son guide du jeune chercheur à l'ère de l'intelligence artificielle générative.
Un ouvrage vraiment essentiel pour le coup.
Complètement. L'objectif, et j'insiste là-dessus, la mission de notre exploration, c'est surtout pas de diaboliser la technologie.
Non, bien sûr, ce serait contre-productif.
Voilà, il s'agit plutôt de décrypter la mécanique de ces outils pour comprendre comment faire de véritables amplificateurs d'intelligence et pas des amplificateurs d'erreurs.
C'est tout le défi.
Ok, décortiquons tout ça. Il y a un paradoxe fascinant à notre époque. C'est que l'humanité croule sous l'infobésité, l'accès à la donnée est total, et pourtant, ben, il semble qu'il n'a jamais été aussi facile d'avoir tort avec une assurance absolue.
C'est clair. Ce paradoxe, il définit vraiment notre rapport actuel au savoir. Le postulat de base, dans ses sources, ça pose une vérité implacable. L'IA ne vient augmenter que l'individu qui possède déjà une culture informationnelle critique.
Seulement ceux qui ont déjà les bases, quoi.
Voilà, pour toute personne qui n'a pas cette fondation, la machine devient un outil de fragilisation intellectuelle redoutable. Elle présuppose la compétence, en fait, elle la remplace pas.
Ah ouais, je vois. Mais du coup, pour bien comprendre la mécanique de cette fragilisation, il faut regarder un peu sous le capot, parce que quand on interagit avec ces LLM, on a cette sensation troublante de dialoguer avec un érudit qui a lu tous les livres du monde.
Et c'est un mirage total.
Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ?
Eh ben, pour dissiper ce mirage, il est super utile de convoquer le concept du perroquet stochastique. C'est une métaphore qui a été introduite en 2021 par la chercheuse Emily Bender. L'enjeu, c'est de comprendre ce que fait réellement la machine, au niveau purement mathématique.
Un perroquet stochastique ?
Ouais, c'est ça. En fait, un LLM ne comprend pas du tout le monde ou le texte qu'il génère. Il n'a aucun modèle mental. Son fonctionnement repose juste sur la prédiction statistique.
Donc il devine juste le mot suivant ?
Exactement. Les milliards de textes qu'il a ingurgités ont été découpés en fragments, qu'on appelle des tokens, puis cartographiés. Quand on lui pose une question, il calcule avec une puissance folle la probabilité du prochain token à afficher, puis du suivant. Il imite la forme du savoir sans en avoir la substance.
D'accord. Donc si je pousse la logique, c'est un peu comme un acteur d'improvisation extrêmement confiant.
Ouais, c'est une bonne analogie.
Genre, si on lui demande de jouer un expert en physique quantique, il va utiliser le bon vocabulaire, le bon ton austère des publications académiques, parce que c'est ce que son calcul de probabilité lui dicte.
Tout à fait.
Mais si on lui demande de construire un vrai réacteur nucléaire, bah, il s'effondre. Il maîtrise la mélodie, mais il connaît pas la musique.
C'est exactement ça. Et si on relie cela à la situation globale, c'est précisément cette perfection formelle qui crée un danger épistémologique majeur. Vous connaissez Gaston Bachelard.
Le philosophe, oui, bien sûr.
Bachelard expliquait que la science se construit toujours contre les évidences trompeuses, ce qu'il appelait les obstacles épistémologiques. Et aujourd'hui, l'IA agit comme un démultiplicateur massif de ces obstacles.
Ah, parce que la réponse a l'air tellement parfaite qu'on se méfie plus.
Voilà. D'une part, elle génère cette puissante illusion du savoir. Le texte est tellement bien rédigé que notre cerveau baisse la garde. La forme valide le fond pour nous. Et d'autre part, ça flatte notre biais de confirmation.
C'est-à-dire, ça, elle nous dit ce qu'on veut entendre ?
Complètement. Ces algorithmes sont optimisés pour satisfaire l'utilisateur. Si on oriente la question vers une théorie farfelue, l'algorithme va calculer les probabilités pour abonder dans notre sens avec un aplomb désarmant.
Ce qui m'amène à une vraie question. Est-ce que le problème de fond, c'est pas simplement qu'on devient paresseux?
C'est-à-dire?
Dans les sources, on parle de la désappropriation des compétences, le fameux de-skilling. Si l'IA peut lire 60 articles en 10 secondes et me faire une synthèse lisse, la tentation de déléguer est énorme.
Ah, la tentation de la facilité, oui.
Mais à force de déléguer la recherche, on perd la friction cognitive, non? Le fait de buter sur un texte complexe, de formuler une hypothèse. Si on supprime ça, on atrophie notre esprit critique.
Je valide totalement. Le processus de découverte, il est indissociable de cette friction. Déléguer entièrement la phase exploratoire, c'est amputer la recherche de sa substance. C'est dans l'effort de synthèse personnelle que se forge l'expertise, en fait.
C'est là qu'on trouve les liens inattendus.
Exactement. La sérendipité. L'outil prémâche l'information et ça nous prive de cette capacité à fouiller par nous-mêmes.
Et franchement, les conséquences de cette paresse deviennent catastrophiques quand notre acteur d'improvisation est sommé de fournir des preuves. Parce que si on lui dit « Ok, ton résumé est super, mais quelles sont tes sources ?» Et il les invente.
C'est là qu'on retombe sur le phénomène des hallucinations.
Mais ce qui est fascinant, c'est la mécanique derrière. Comment une machine peut-elle fabriquer des fausses références bibliographiques qui trompent même des experts ?
L'explication, elle réside toujours dans cette logique probabiliste. Lors de son entraînement, le modèle a appris la structure typographique exacte d'une citation académique.
Les normes APA ou Chicago, par exemple.
Voilà. Il sait qu'une référence, c'est des noms propres, une année entre parenthèses, un titre et le nom d'une revue en italique. Donc il assemble tout ça de manière statistiquement plausible.
Donc il mélange des vrais auteurs avec des faux titres.
Exactement. Il prend un chercheur réel connu dans le domaine, il invente un titre avec les bons mots-clés et il attribue ça à une vraie revue. Ça crée un mirage de crédibilité redoutable.
C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que le piège ultime, ce sont les identifiants DOI. J'ai vu que l'IA peut même inventer ses liens cliquables. Mais si le lien a l'air vrai, comment on fait pour pas tomber dans le panneau?
En fait, l'IA ne fait pas de recherche dans une base de données. Elle sait juste qu'un DOI, visuellement, ça ressemble à un 10 points quelque chose suivi de chiffres et de lettres.
Ah, elle prédit juste une suite de caractères qui a la bonne texture visuelle.
C'est l'essence même du problème. Elle produit un hyperlien parfait en apparence, mais qui mène vers une erreur 404 ou vers un article qui n'a rien à voir. C'est une pollution profonde du savoir. Et insérer une seule de ces fausses références dans un mémoire, ça ruine instantanément toute crédibilité.
Alors face à ça, quelle est la solution pratique ? Parce qu'on ne va pas interdire l'IA, c'est impossible.
La règle d'or, et c'est non négociable, c'est qu'on ne demande jamais ses sources à une IA. Jamais.
Jamais, jamais.
Jamais. Toute référence d'IA est présumée fausse jusqu'à preuve du contraire. L'antidote numéro 1, c'est de tester le DOI directement sur le site officiel, doi.org. Si ça mène à un vrai document chez l'éditeur, ok. Sinon, c'est poubelle.
Ce qui demande de développer ce que le guide appelle une culture informationnelle augmentée.
C'est le terme exact, oui.
De base, la culture informationnelle, c'était ce concept citoyen de Major R. Owens pour la survie démocratique, vérifier l'info. Mais là, il faut l'augmenter d'une couche numérique militante. Remonter à la source primaire, vérifier l'auteur, trianguler.
Et c'est d'autant plus vital dans le monde de la recherche avec le système du libre accès. L'open access part d'une bonne intention, démocratiser le savoir, mais ça a créé le modèle pervers des revues prédatrices.
Ah oui, celles qui font payer les auteurs sans faire d'évaluation par les pairs.
Voilà. Et l'IA aggrave ça de manière spectaculaire en baissant le coût de production des articles bidons. C'est pour ça qu'il faut utiliser des outils comme le DOAJ, le Directory of Open Access Journals, pour vérifier si une revue est légitime.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre usage quotidien ? Parce qu'il y a des moteurs de recherche par IA comme Elicite, Consensus ou Perplexity qui sont connectés à de vraies bases de données.
Oui, ces outils-là sont différents des LLM classiques.
Moi, j'ai une métaphore pour ça. Les utiliser, c'est comme utiliser un drone pour repérer un terrain depuis les airs.
Ah, j'aime beaucoup l'image.
C'est génial pour explorer, cartographier la forêt, repérer les courants de pensée. Mais pour conclure et bâtir la cabane, on ne peut pas le faire depuis l'écran du drone. Il faut redescendre au sol, mettre les mains dans la terre et vérifier soi-même.
Je suis totalement d'accord avec cette répartition des rôles. Explorer versus conclure. Les moteurs de recherche IA suggèrent des pistes avec une puissance folle, mais c'est à l'humain de lire l'article en entier, d'évaluer la méthode et de décider si c'est pertinent. L'esprit humain valide la vérité.
Bon, on sait comment vérifier ce qui entre. Mais qu'est-ce qui se passe au moment d'écrire ? Quelle est la place de l'IA dans la production de notre propre savoir ?
Là, on touche à l'éthique. Et la règle absolue, partagée par l'ICMJE, le COP, les revues Nature et Sciences, c'est qu'une IA ne peut pas être auteur.
Et ça soulève une question hyper importante sur ce qu'est un auteur, en fait.
Exactement. Le statut d'auteur implique une responsabilité. Une machine, ça ne peut pas répondre de ses erreurs devant un comité des types ou devant la loi. Elle n'a pas de patrimoine pour réparer un dommage.
C'est logique.
Donc on fait une distinction cruciale. Il y a l'IA correcteur, qui est acceptable pour lisser la grammaire, traduire en anglais académique, ça lève des barrières.
Ouais, c'est juste de la forme.
Voilà. Par contre, l'IA rédacteur est proscrite. Dès que la machine pense à la place du chercheur et génère le fond, elle vole la pensée et la voix de l'auteur.
Et pour contrer ça, on voit proliférer les fameux détecteurs d'IA. Sauf que, et c'est un point clé des sources, ces détecteurs sont biaisés. L'étude de Liang et ses collègues en 2023 montre qu'ils produisent des faux positifs discriminatoires.
C'est un scandale, franchement. En fait, les détecteurs analysent la perplexité, c'est-à-dire la prévisibilité d'un texte. Une IA écrit de manière très probable.
Faible perplexité, du coup.
C'est ça. Or, devinez qui utilise souvent un vocabulaire plus prévisible, très scolaire et prudent ?
Les rédacteurs non anglophones, non natifs.
Exactement. Les chercheurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. L'algorithme confond leur prudence linguistique avec du texte machine. S'y fier aveuglément, c'est pénaliser ceux qui font l'effort de rédiger eux-mêmes.
D'où l'importance vitale, comme solution, de déclarer l'utilisation de l'IA, de jouer la transparence totale dans la méthodologie.
Et de conserver un historique de ces brouillons.
Oui, garder les ratures, les notes de terrain, pour prouver l'authenticité de son processus humain.
Et j'ajouterai un impératif absolu, la confidentialité. Il ne faut jamais confier de données sensibles à une IA en ligne.
Genre des entretiens ou des données médicales.
Jamais. Soumettre un manuscrit non publié à un LLN, c'est une violation du RGPD en Europe, mais aussi des lois équivalentes en Afrique, comme la Convention de Malabo. Respecter la donnée brute, c'est la base de la confiance en recherche.
Si on doit utiliser toute cette exploration, l'idée centrale, c'est que la machine ne remplace pas l'esprit critique, elle le requiert.
Plus que jamais même.
L'IA est un amplificateur extraordinaire, mais le principe directeur demeure invariable. C'est au chercheur d'augmenter la machine, et non l'inverse. L'IA aide à formuler, elle ne source pas. Elle aide à traduire, elle ne pense pas.
La validation finale, c'est le monopole de la conscience humaine.
Et ça me laisse avec une réflexion finale assez provocatrice pour vous qui nous écoutez. Si des textes parfaits peuvent désormais être générés gratuitement, et si les détecteurs d'IA n'arrivent plus à différencier la machine de l'humain, surtout pour les non-anglophones, comme on l'a vu, est-ce que la véritable mesure de l'expertise humaine ne va pas s'éloigner de l'écrit ?
C'est une super question.
Peut-être qu'on va assister à un retour à la tradition orale, un retour aux grandes défenses en direct, au débat de vive voix face à un jury. Parce que là, les yeux dans les yeux, la fluidité d'un prompt ne peut plus masquer l'absence de véritable compréhension.
C'est une perspective fascinante.
Une vraie réflexion à méditer pour quiconque cherche à prouver sa valeur à l'ère numérique. L'écrit peut être truqué, mais la voix humaine et le répondant en direct, ça, c'est infalsifiable.